Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle qui s'intitule « La femme qui venait à 6 heures ». Elle a été écrite en 1950 par Gabriel Garcia Marquez. C'est un écrivain colombien qui nous a quittés en 2014 et qui a eu le prix Nobel en 1982. Et vous allez entendre que sa façon d'écrire, c'est un mélange de réalisme, de fantastique et de baroque. Le battant de la porte s'ouvrit. À 7 heures, le restaurant était vide. 6 heures venaient de sonner et l'homme savait que les habitués ne commenceraient à arriver qu'à 6h30. Sa clientèle était à ce point coutumière et régulière qu'une femme poussa la porte, ponctuelle comme chaque jour, et s'assit sans mot dire sur le haut tabouret, tournant alors que la pendule n'avait pas fini de sonner les 6 coups. Elle avait aux lèvres une cigarette qui n'était pas encore allumée. « Bonjour ma reine, » dit José en la voyant s'asseoir. Puis il se dirigea vers l'autre extrémité du comptoir en passant un chiffon sec sur la surface vitrée. Chaque fois que quelqu'un entrait, José répétait son geste. Même devant la femme à qui le liait une certaine amitié, le patron, rubicon et gras, jouait sa comédie quotidienne d'homme diligent. De l'autre bout du comptoir, il dit « Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ?»« D'abord, je veux t'apprendre à être un gentleman, » dit la femme. Elle était assise à l'extrémité de la rangée de tabourets tournants, accoudée au comptoir, la cigarette éteinte entre les lèvres. Elle avait parlé les lèvres serrées afin que José la remarque. « Je n'avais pas fait attention, » dit José. « Tu ne fais jamais attention à rien, » dit la femme. L'homme posa le chiffon sur le comptoir, se dirigea vers les étagères grisâtres qui sentaient le goudron et le bois poussiéreux et revint avec une boîte d'allumettes. La femme se pencha vers la flamme qui brûlait au creux des mains épaisses et velues de l'homme. José vit l'abondante chevelure à laquelle une brillantine bon marché donnait des reflets bleus acier. Il regarda l'épaule découverte au-dessus du corsage à fleurs et la naissance d'un sein crépusculaire, tandis que la femme relevait la tête, la cigarette embrasée entre ses lèvres. « Tu es belle aujourd'hui, ma reine, » dit José. « Arrête de dire des bêtises, » dit la femme. « Ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui je vais te payer. » « Je n'ai pas voulu dire ça, ma reine, » dit José. « Je parie qu'aujourd'hui, t'as pas digéré ton déjeuner. » La femme avala une première bouffée de fumée, dense, croisa les bras sur le comptoir et regarda la rue par la large vitre du restaurant. Son visage reflétait la mélancolie. Une mélancolie usée et vulgaire. « Je vais te préparer un bon beefsteak, » dit José. « Je suis sans un, » dit la femme. « Ça fait 3 mois que tu es sans un et ça ne m'empêche pas de te préparer chaque fois quelque chose de bon, » dit José. « Aujourd'hui, c'est pas pareil, » dit la femme d'une voix grave, les yeux tournés vers la rue. « C'est tous les jours pareil, » dit José. « Tous les jours, quand la pendule sonne 6 heures, tu entres et tu dis que tu as une faim de loup et je te prépare quelque chose de bon. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu ne dis pas que tu as une faim de loup, mais que c'est pas pareil. « C'est vrai, » dit la femme. Elle tourna la tête pour regarder l'homme en train de fouiller dans le réfrigérateur de l'autre côté du comptoir. Elle le contempla pendant 2 ou 3 secondes, puis regarda la pendule au-dessus du placard. Il était 6h03. « C'est vrai, José. Aujourd'hui, c'est pas pareil. » Elle exhala la fumée et continua de parler à petits mots entrecoupés, passionnés. « Ce soir, je ne suis pas arrivée à 6h. C'est pour ça que c'est pas pareil. » L'homme regarda la pendule. « Je mets ma main au feu que cette pendule ne retarde pas d'une minute, » dit-il. « La question n'est pas là, José. Aujourd'hui, je ne suis pas venue à 6h, » dit la femme. « Je suis venue à 6h moins le quart. »« 6 heures viennent de sonner, ma reine, » dit José. « Quand tu es entrée, elle venait de sonner. »« Ça fait 1 quart d'heure que je suis ici, » dit la femme. José alla se planter devant elle. Il approcha son énorme visage congestionné de celui de la femme et d'un doigt tira sur la paupière inférieure. « Mon œil, » dit-il. La femme rejeta la tête en arrière. Elle était grave, fatiguée, apathique, auréolée d'un nuage de tristesse et de lassitude. « Écrase, José, tu sais que je ne vois plus depuis 6 mois. » « À d'autres, » dit José, « moi, je parie qu'à vous deux, vous avez descendu au moins une bouteille. »« J'ai bu 2 verres avec un ami, » dit la femme. « Comme ça, je comprends, » dit José. « Il n'y a rien à comprendre, dit la femme. Ça fait un quart d'heure que je suis ici. L'homme haussa les épaules. Bon, d'accord. Ça fait un quart d'heure que tu es là, dit-il. Après tout, 10 minutes de plus ou de moins, tout le monde s'en fout. Non, tout le monde ne s'en fout pas, dit la femme. Et elle allongea ses bras sur la surface vitrée du comptoir avec un air d'abandon négligé, puis elle dit « C'est pas que ça me fasse plaisir, mais ça fait un quart d'heure que je suis ici. » Elle regarda une nouvelle fois la pendule et rectifia « Qu'est-ce que je raconte ? Ça fait 20 minutes. »« D'accord, ma reine, dit l'homme, je donnerais un jour et une nuit pour te voir contente. » Pendant ce temps, José n'avait cessé de s'agiter derrière le comptoir, un objet par-ci, un objet par-là. Il était dans son rôle. « Je veux que tu sois contente, » répéta-t-il. Il s'immobilisa brusquement et se tournant vers la femme. « Tu sais que je t'aime beaucoup ?» La femme le regarda avec froideur. « Oui ?»« Sans blague. Tu crois que je resterais avec toi pour 1 million de pesos ?»« Je n'ai pas voulu dire ça, ma reine, » dit José. « Je parie que t'as pas digéré ton déjeuner. »« Ça n'a rien à voir, » dit la femme. Sa voix se fit moins insolente. C'est qu'aucune femme ne voudrait d'un balourd comme toi, même pour 1 million de pesos. José rougit. Il tourna le dos à la femme et se mit à épousser les poussières sur les étagères. Il parla sans se retourner. « Tu es insupportable aujourd'hui, ma reine. Vaut mieux que tu manges ton beefsteak et que tu ailles te coucher. »« Je n'ai pas faim, » dit la femme. Elle regarda de nouveau la rue, les piétons nébuleux dans la ville crépusculaire. Dans le restaurant, un silence gêné s'installa, une quiétude à peine interrompue par le tintouin de José dans le placard. Soudain, la femme cessa de regarder la rue et dit d'une voix éteinte, tendre, différente. « C'est vrai que tu m'aimes, Pépillo ?»« Oui, c'est vrai, » dit José sèchement sans la regarder. « Même après ce que je t'ai dit ?»« Qu'est-ce que tu m'as dit ?» dit José, sans la moindre inflexion de voix, sans un regard. « 1 million de pesos, dit la femme. « J'avais oublié, dit José. « Alors tu m'aimes ?»« Oui, dit José. » Il y eut une pause. José continua de s'agiter devant les étagères, le dos tourné. Elle exhala une autre bouffée de fumée, appuya le buste sur le comptoir, puis, avec prudence et malice, elle mordit la pointe de sa langue avant de demander presque du bout des lèvres. « Même si je ne couche pas avec toi ?» Alors José se retourna pour la regarder. « Je t'aime tellement que je n'ai pas besoin de coucher avec toi, » dit-il. Puis il s'approcha et la contempla, immobile, ses bras puissants posés devant elle sur le comptoir. Il la regarda droit dans les yeux et dit « Je t'aime tellement que je pourrais tuer l'homme qui couche avec toi chaque après-midi. » La femme sembla d'abord perplexe, puis elle regarda l'homme avec une expression attentive, entre la pitié et la raillerie. Enfin déconcertée, après un bref silence, elle éclata d'un rire bruyant. « Tu es jaloux, José, c'est merveilleux, tu es jaloux !» José vira à l'écarlate, en proie à un accès de timidité sincère, presque insolente, comme un enfant à qui l'on aurait soudain révélé tous les secrets. Il dit « Aujourd'hui, tu ne comprends rien à rien, ma reine !» Et il épongea sa sueur avec le chiffon. « Ta mauvaise vie te rend stupide, » dit-il. Mais la femme avait changé d'expression. « Alors c'est pas vrai, » dit-elle. Et elle le fixa de nouveau, un étrange éclat dans son regard qui devint tourmenté et soupçonneux. « Tu n'es pas jaloux ?»« D'une certaine façon, si, » dit José, « mais pas comme tu le crois. » Il glissa un doigt sous son col pour le desserrer, continua de s'éponger le cou, cette fois, avec le chiffon. « Alors, » dit la femme, « c'est que je t'aime tellement que je ne peux pas souffrir que tu fasses ça. » « Ça quoi ? » dit la femme. « Ça, d'aller tous les jours avec un type différent, » dit José. « C'est vrai que tu le tuerais pour qu'il ne te couche pas avec moi, » dit la femme. « Pour qu'il ne couche pas avec toi, non, » dit José. « Je le tuerais parce qu'il a couché avec toi. » « C'est pareil, » dit la femme. La conversation avait pris une tournure sérieuse et tendue. La femme parlait d'une voix douce, feutrée, fascinée. Son visage était presque collé à celui pacifique et éclatant de santé de l'homme qui demeurait immobile comme ensorcelé par l'aura des mots. « Tout ce que je dis, c'est vrai, » dit José. Alors, dit la femme, et elle tendit une main pour caresser le bras rugueux de l'homme pendant que de l'autre elle jetait son mégot. « Alors tu serais capable de tuer un homme ?»« À cause de ce que je t'ai dit, oui, » dit José, et sa voix s'enfla d'un accent presque dramatique. La femme éclata d'un rire nerveux dans l'intention évidente de le blesser. « Quelle horreur, José ! Quelle horreur » dit-elle, sans pouvoir s'arrêter de rire. « José pourrait tuer un homme. Qui aurait dit que derrière ce gros bigot qui ne me fait jamais payer, qui tous les jours me fait cuire un beefsteak et qui s'amuse à parler avec moi jusqu'à ce que j'ai dégoté un type, se cache un assassin ? Quelle horreur, José, tu me fais peur !» José était perdu. Peut-être éprouvait-il quelque indignation. Peut-être s'était-il trahi lorsque la femme s'était mise à rire. « Idiote, tu es complètement saoul, va, dit-il, va te coucher. Tu ne dois même pas avoir envie de manger. » Mais la femme avait cessé de rire et, accoudée au comptoir, était redevenue grave et pensive. Elle vit l'homme s'éloigner. Elle le vit ouvrir le réfrigérateur et le refermer sans rien en sortir. Elle le vit frotter la surface brillante, comme au début. Alors, sur le même ton attendrissant et doux qu'elle avait employé pour lui dire « C'est vrai que tu m'aimes, Pépillot ?» elle l'interpella. « José !» L'homme ne lui jeta même pas un regard. « José, va te coucher, dit José, et prends un bain avant de te mettre au lit, ça te dessoulera. »« Sérieusement, José, dit la femme, je ne suis pas saoule. »« Alors tu es devenu idiote, dit José. »« Viens ici, il faut que je te dise quelque chose, dit la femme. » L'homme s'approcha, hésitant entre la complaisance et la méfiance. « Approche. » Il se planta de nouveau devant elle. Elle se pencha en avant, le saisit vigoureusement par les cheveux, en un geste d'évidente tendresse. « Répète ce que tu as dit au début, » dit-elle. « Quoi ?» dit José. Agrippé par les cheveux, la tête en avant, il s'efforçait de la regarder. « Que tu pourrais tuer un type qui aurait couché avec moi, » dit la femme. « Je pourrais tuer un type qui aurait couché avec toi, ma reine, c'est vrai, » dit José. La femme le lâcha. « Et tu me défendrais si c'était moi qui l'avais tué ?» dit-elle avec assurance, repoussant d'un geste de coquetterie brutale l'énorme tête de porc de José. L'homme ne répondit rien. Il sourit. « Réponds-moi, José, dit la femme, tu me défendrais si c'était moi qui l'avais tué ?»« Ça dépend, dit José, c'est moins facile à dire qu'à faire, tu sais. »« Tu es le seul en qui la police ait confiance, dit la femme. » José sourit, digne, satisfait. La femme se pencha de nouveau vers lui par-dessus le comptoir. « C'est vrai, José, je parie que tu n'as jamais dit un seul mensonge de ta vie. »« Pour ce que ça rapporte, dit José. »« Justement, dit la femme, la police le sait et croit tout ce que tu lui racontes sans poser deux fois la question. » José se mit à tapoter le comptoir devant elle. Il ne savait pas quoi lui répondre. La femme regarda une fois encore la rue. Elle regarda la pendule et changea de ton, comme si elle voulait conclure la conversation avant l'arrivée des premiers habitués. « Pour moi, tu dirais un mensonge, José ? Vraiment ?» Alors José la regarda brusquement, profondément, comme si une idée terrible avait germé dans sa tête, une idée qui entra par une oreille, tournoya un moment dans son crâne, vague, confuse, et sortit par l'autre, ne lui laissant à peine qu'un vestige d'épouvante. « Dans quelle salade est-ce que tu t'es fourrée, ma reine » dit-il. Il se pencha en avant, bras croisés sur le comptoir. La femme sentit la forte odeur d'ammoniac de son souffle que la pression du comptoir sur son estomac rendait difficile. « Ça oui, c'est du sérieux, ma reine. Dans quelle salade est-ce que tu t'es fourrée ?» La femme détourna la tête. « Dans aucune, dit-elle, je parlais pour dire quelque chose. » Puis elle le regarda. « Tu sais que tu n'auras peut-être besoin de tuer personne ?» « Je n'ai jamais pensé tuer quelqu'un, » dit José, décontenancé. « Non, bien sûr, » dit la femme, « je veux dire, personne qui ait couché avec moi. »« Ah, » dit José, « maintenant c'est clair. J'ai toujours pensé que tu n'avais pas besoin de vivre comme ça. Si tu laisses tomber, je te donnerai gratis tous les jours le plus gros beefsteak. »« Merci, José, » dit la femme, « mais c'est pas pour ça. C'est que plus jamais je pourrai coucher avec quelqu'un. » « Tu recommences à tout embrouiller, » dit José. Il commençait à s'impatienter. « Je n'embrouille rien du tout, » dit la femme. Elle s'étira sur le tabouret et José vit ses seins plats et tristes sous le corsage. « Demain je pars et je te jure que je ne t'embêterai plus jamais. Et d'où vient cette fièvre subite ? Dit José. Je l'ai décidé il y a un instant, dit la femme. Tout à l'heure, je me suis brusquement rendu compte que c'était dégoûtant. José reprit son chiffon et se remit à frotter le verre à côté d'elle. Il parla sans la regarder. Évidemment, de la façon que tu le fais, c'est dégoûtant. Il y a belle lurette que tu aurais dû t'en apercevoir. Ça fait un bout de temps que je m'en suis aperçue, dit la femme. Mais je viens seulement de m'en convaincre. Les hommes me dégoûtent. José sourit, leva les yeux pour la regarder et la vit songeuse, perplexe, la tête rentrée dans les épaules. Elle faisait pivoter le tabouret avec une expression taciturne et son visage était comme doré par un emplâtre automale prématuré. « Tu ne crois pas qu'on devrait laisser tranquille une femme qui a tué un homme parce qu'après avoir couché avec lui, elle sent qu'il la dégoûte, que tous ceux qui ont couché avec elle avant la dégoûtent ?»« C'est pas la peine de chercher midi à 14h, ma reine, » dit José ému, un filet de pitié dans la voix. Et si la femme dit à l'homme qu'il la dégoûte en le voyant se rhabiller, parce qu'elle se souvient qu'elle s'est vautrée avec lui tout l'après-midi et qu'elle sent que ni le savon ni le crin ne pourront faire disparaître son odeur. « Ce sont des choses qui arrivent, ma reine, » dit José, plutôt indifférent, sans cesser de frotter son comptoir. « C'est pas la peine de le tuer, faut simplement le laisser partir. » Mais la femme continuait à parler et sa voix était un flot uniforme, débridé, passionné. Et si, quand la femme lui dit qu'il la dégoûte, l'homme arrête de s'habiller, se précipite de nouveau sur elle pour l'embrasser, « Aucun homme ne ferait ça, » dit José. « Mais, et s'il le faisait, » dit la femme, avec une anxiété exaspérante, « si l'homme n'est pas correct et qu'il le fait et qu'alors la femme éprouve un dégoût à en mourir et sait que la seule façon d'en finir avec tout ça, c'est de lui filer un coup de surin par en dessous. » « C'est épouvantable, » dit José. « Heureusement, aucun homme ne ferait ce que tu dis. » « Bon, bon, d'accord, dit la femme, maintenant tout à fait exaspérée. Mais s'il le faisait, imagine qu'il le fasse. » « De toute façon, on n'en est pas là, dit José. » Il continuait d'essuyer le comptoir sans bouger, moins attentif à la conversation. La femme tapota le verre, les doigts repliés. Elle reprenait de l'assurance, redevenait elle-même. « Tu n'es qu'un pauvre type, dit-elle. Tu ne comprends rien à rien. » Elle l'attrapa avec force par une manche. « Allez, dis, oui. » Dit que la femme devait le tuer. D'accord, dit José conciliant, c'est comme tu voudras. C'est pas de la légitime défense, ça, dit la femme en le secouant par la manche. José lui adressa un regard tiède et complaisant. Presque, presque, dit-il, et il cligna de l'œil en un geste qui signifiait à la fois une compréhension cordiale et une complicité terrible. Mais la femme était toujours sérieuse, elle le lâcha. Tu mentirais pour défendre une femme qui aurait fait ça, dit-elle. « Ça dépend, » dit José. « Ça dépend de quoi ?» dit la femme. « Ça dépend de la femme, » dit José. « Supposons que c'est une femme que tu aimes beaucoup, » dit la femme. « Pas parce que tu es avec elle, tu le sais bien, mais parce que tu l'aimes beaucoup, comme tu l'as dit tout à l'heure. »« D'accord, comme tu voudras, ma reine, » dit José, en baissant les bras fatigués. Il s'éloigna de nouveau. Il avait regardé la pendule et vu qu'il allait être 6h30. Il pensa que dans quelques minutes, le restaurant commencerait à se remplir et il se mit à frotter la vitre du comptoir avec plus de vigueur, regardant la rue par la fenêtre. La femme était toujours sur le tabouret, silencieuse, méditative, contemplant avec un air de tristesse les mouvements de l'homme. Elle le regardait comme une lueur qui s'éteint tout doucement pourrait regarder un homme. Soudain, sans crier gare, elle se remit à parler la voix chargée de mansuétude. « José !» L'homme eut un regard bovin, plein d'une tendresse profonde et triste. Il leva les yeux vers elle, non pas pour mieux l'écouter, mais simplement pour la voir, pour s'assurer qu'elle était là, et attendait son regard qui n'avait aucune raison d'être protecteur ou solidaire. Un regard à peine amusé. « Je t'ai dit que je partais demain. »« Et tu ne m'as rien répondu, » dit la femme. « Non, » dit José, « parce que tu ne m'as pas dit où tu allais. » « Loin, » dit la femme, « là où il n'y a pas d'hommes qui veulent coucher avec une femme. » José se remit à sourire. « Alors c'est vrai que tu pars ? » demanda-t-il, comme si la vie reprenait soudain le dessus, modifiait l'expression de son visage. « Ça dépend de toi, » dit la femme. « Si tu sais à quelle heure je suis arrivée, demain je pars, et plus jamais je ne ferai ce que j'ai fait. Ça te va comme ça ?» José eut un geste affirmatif, souriant et concret. La femme se pencha vers lui. « Si un jour je reviens ici, » et que je trouve un autre homme en train de parler avec toi, à cette heure et sur ce tabouret. Je serai jalouse. Si tu reviens, il faudra que tu me rapportes quelque chose, dit José. Je te promets de chercher partout le petit ours mécanique pour te le rapporter, dit la femme. José sourit et agita son chiffon en l'air comme s'il nettoyait un invisible carreau entre lui et la femme. Celle-ci sourit et eut un geste cordial et coquet. Puis l'homme s'éloigna sans cesser de frotter son comptoir. « Hein ?» dit-il sans la regarder. « Si on te demande à quelle heure je suis arrivée, tu répondras « à 6h15 », dit la femme. « Pourquoi ?» dit José, le regard toujours ailleurs, comme s'il l'avait à peine entendu. « Ça n'a pas d'importance, » dit la femme. « Le principal, c'est que tu le dises. » José vit le premier habitué pousser le bâton de la porte et se diriger vers une table dans un coin. Il regarda la pendule. Il était exactement 6h30. « D'accord, ma reine, » dit-il distraitement. « Comme tu voudras, je fais toujours ce que tu veux. »« Bon, » dit la femme, « alors prépare-moi le beefsteak. » L'homme se dirigea vers le réfrigérateur, en sortit une assiette avec de la viande, la posa sur la table. Puis il alluma le réchaud. « Je vais te préparer un bon beefsteak d'adieu, ma reine. »« Merci, Pépillot, » dit la femme. Elle demeura pensive, comme si elle s'était soudain abîmée dans un monde étrange, peuplé de formes nébuleuses et inconnues. De l'autre côté du comptoir, elle n'entendit pas le bruit de la viande fraîche tombée dans le beurre fondu. Elle n'entendit pas le grésillement sec de la friture lorsque José retourna le morceau de filet dans la poêle, mais l'odeur succulente emplit peu à peu le restaurant. La femme ne bougea pas, perdue au plus profond de ses pensées. À la fin, elle leva la tête et scia comme si elle se réveillait d'une mort passagère. Alors elle vit l'homme près du réchaud, éclairé par la flamme qui s'élevait joyeuse. « Pépillot, hein ? À quoi penses-tu ? » dit la femme. « Je me demandais si tu pourras trouver quelque part le petit ours mécanique, » dit José. « Mais oui, bien sûr, mais je veux que tu me dises si pour mon départ, tu me donneras tout ce que je te demanderai. » Debout devant le réchaud, José la regarda. « Combien de fois il faut que je te le dise ? » dit-il. « Tu veux quelque chose en plus du meilleur beefsteak ?»« Oui, » dit la femme. « Quoi ? » dit l'homme. « Je veux un autre quart d'heure. » José se pencha en arrière pour jeter un œil à la pendule. Il regarda ensuite le client silencieux qui attendait dans son coin et finalement la viande qui dorait dans la poêle. Alors il dit « Je ne comprends pas, ma reine. » « Ne sois pas stupide, José, » dit la femme. « Souviens-toi que je suis ici depuis 5h30. »